France Culture.
Les nuits de France Culture.
Les films de fiction ne manquent pas aux États-Unis pour dire, pour montrer, pour conter la vie de l'Amérique pauvre, celle des quartiers populaires. Mais c'est peut-être le cinéma documentaire qui s'approche le plus des réalités très intimes vécues par les dizaines de millions d'Américains relégués dans ce qu'il est encore convenu d'appeler les ghettos. En 2006, Elisabeth Le Quéré, Charlotte Garçon et Mehdi Elhadj se penchaient sur ces récits de vie aux marges du rêve américain et ces rêves d'en sortir, en s'entretenant avec le cinéaste Jean-Pierre Gorin, lui-même établi de longue date aux États-Unis. Plusieurs extraits de documentaires rythment ces échanges téléphoniques, Hope Dreams, My Crazy Life et What's Up Rockers. Trois regards sur l'envers du décor et du rêve américain. En deuxième partie d'émission, la voix d'un autre cinéaste, Jean-François Richet, réalisateur de Ma cité va craquer en 1997 et lui aussi fin connaisseur des États-Unis. Filmer le ghetto, c'est donc le programme de ce numéro de Sur les docks du 16 novembre 2006.
Une autre Amérique, le cinéma documentaire Made in USA. Charlotte Garçon,
Elisabeth Le Quéré.
Aujourd'hui,
filmer le ghetto.
What's up, rockers?
En 1961, Robert Wise filme les amours contrariées de la portoricaine Maria et du blanc Tony, deux jeunes de Harlem. Si West Side Story connaît un immense succès populaire, c'est au génie musical de Leonard Bernstein qui le doit, mais aussi à son choix de montrer ce que jamais ou presque le cinéma n'a filmé jusqu'ici. L'affrontement des Jets et des Sharks, deux gangs rivaux, dans le quartier hispanique de Harlem. Dans West Side Story, Robert Wise filme le ghetto comme une jungle, cernée par de hauts immeubles, une véritable ville dans la ville, sous la coupe de gangs dotés de codes d'honneur presque médiévaux. Depuis, le ghetto film est devenu un genre à part entière. Après Shaft, après Boys in the Hood, après les films de Spike Lee, la violence stylisée de West Side Story peut prêter à sourire. Aujourd'hui encore, quand les fictions puisent dans l'imaginaire du ghetto, elles peinent à en extraire autre chose que du folklore ou des personnages caricaturaux. Gangsters tirés à quatre épingles et jolies filles paradant sur le capot de grosses cylindrées.
Are you ready?
Le ghetto est un cliché. Peut-être parce que peu de cinéastes s'y sont aventurés, sa représentation suit souvent la même pente. Misère, violence, trafic de drogue et guerre des gangs.
Fine and they Calvin can I no
Quelques documentaires ont pourtant tenté de briser le cercle ghetto-misère, de montrer que, même pour les plus défavorisés, le rêve américain peut aussi fonctionner.
Against Proviso East, William plays his best game yet. And the Chargers move a step closer to going downstate to compete for the title.
From Chicago, it's the sports writers on TV.
I think I may have seen the next Isaiah Thomas. St. Joe of Westchester has a kid named William Gates who is starting as a freshman.
Remember, you heard it first from Bill Gleason.
Put it in your memory bank, ladies and gentlemen. Put it in your memory bank. William Gates.
En 1994, trois cinéastes, Steve James, Frederick Marx et Peter Gilbert, suivent les exploits sportifs de deux adolescents noirs du ghetto de Chicago, William et Arthur. Initialement entrepris comme un court-métrage, Hoop Dreams, rêve de basket, devient après 3 ans de tournage et 250 heures de rush, un documentaire au long cours. 3 heures pour suivre les rêves et les espoirs d'Arthur et William, convoités pour leur talent de basketteur par un lycée blanc de banlieue, et qui se voit déjà en nouveau Michael Jordan. Mais au cours du tournage, le scénario initial dévie de sa trajectoire. Pour Arthur et William, le rêve américain prend l'eau, submergé par la réalité du ghetto. L'un se blesse au genou, l'autre est renvoyé du lycée chic, dont ses parents ne peuvent plus payer les frais de scolarité. Les sacrifices de leur mère n'auront servi à rien.
Aujourd'hui, je vis de l'aide sociale, ce qui n'était pas le cas avant. C'est très dur. J'ai 3 enfants en pleine croissance qui ont toujours besoin de quelque chose et des factures à régler. Et je n'ai pas assez d'argent pour joindre les deux bouts. Mes parents ne m'ont pas élevée avec les allocations. Mon père et ma mère travaillaient tous les deux. On nous a coupé les allocations pendant 3 mois, complètement. On n'a eu aucun revenu. Vous savez ce qui s'est passé? Notre électricité était coupée, notre gaz était coupé, on était dans le noir.
Mais si Arthur et William échouent, les réalisateurs, eux, triomphent. Hoop Dreams est un immense succès commercial. Ses 8 millions de dollars de gains sont reversés aux familles des adolescents. Capitalisant sur la popularité du film, qui pourtant se clôt sur son propre échec de basketteur, Arthur crée même sa ligne de vêtements sous la marque Hoop Dreams. Documentant la faillite, la caméra l'aurait-elle miraculeusement transcendé? Entrepris comme une fable édifiante sur la sortie du ghetto par l'excellence sportive, Hoop Dreams s'est finalement réfugié dans le mélodrame, autre cliché de cinéma. Car pour sortir du cliché, il faudrait montrer le rien, la banalité de l'entraînement sportif dans un lycée de seconde zone. Bref, il faudrait attendre, se laisser rattraper par le réel.
Jean-Pierre Gorin, cinéaste.
J'attends pas les événements. Enfin, je veux dire, une fois que j'ai compris la dynamique du truc, je n'espère pas qu'il va se produire un meurtre, pour prendre un exemple. Non, l'exceptionnel, d'une certaine façon, ne m'intéresse pas. C'est pas le. La différence entre My Crazy Life, c'est précisément ça. C'est life. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la vie gangster? Et la vie gangster, c'est beaucoup d'attentes, c'est beaucoup de milliers de moments creux. C'est des jeunes gens qui savent qu'ils ne vont pas vivre au-delà de 32 ans. Et alors, ils passent leur temps à taper le carton, et c'est un jeu qu'ils ont appris en prison, ils attendent. Et il y a souvent des choses très violentes qui se passent. Et ils ont comme des vieillards, des litanies sur les guerres, les gens tombés, etc., auxquels ils ont participé.
C'est un Français, Jean-Pierre Gorin, qui a filmé le documentaire le plus précis et le plus juste sur la réalité des gangs. Complice de Jean-Luc Godard au début des années 70, Gorin a fondé avec lui le collectif Ziga Vertov et réalisé entre autres Tout va bien, avant de partir s'installer en Californie du Sud. En 1991, il tourne à Los Angeles My Crazy Life, documentaire sur le quotidien de jeunes Samoans, membres des Crips, l'un des deux gangs de la côte ouest. L'approche n'est pas simple, mais le cinéaste finit par trouver la bonne distance pour filmer Bullet, Psycho, Criminal, Hitman et T-Bone.
À l'intérieur du gang, on n'éprouve pas de danger. C'est-à-dire le gang, c'est une structure de protection. Alors, c'était là, moi, j'étais à l'intérieur de ce gang, protégé. Il s'agissait de comprendre un truc que les types se disent constamment. You know, I've got a lot of love for my homies. I mean, cette idée de l'amour, enfin, entre guillemets, quoi, à la fois mais de respect et de protection qui existe entre les membres du gang. Et ça, pour moi, parce que finalement, au bout du compte, il s'agissait de faire un film qui soit, comme je vous l'ai dit, un millimètre au-dessus du terrain, et puis aussi un film dans lequel on redonne de ce fait à ces types l'humanité, la vulnérabilité, l'anxiété qui est la leur. Donc, si on aligne tous les films sur les ghettos, gangsters, etc., c'est ça qui est nié. En fait, c'est toujours une espèce de perspective. C'est soit des cinéastes qui passent leur temps à expliquer qu'ils sont dans une zone de combat terrifiant, ils sont en train de risquer leur vie, non, pas plus, pas moins que n'importe qui traverse la rue. Si on est dans ces zones, il se passe des choses effectivement, mais si on a le respect des gangs, ça va, il y a aucun problème. Le seul risque qu'on a, c'est qu'à s'allier ou à pénétrer une structure, on rompt l'écologie politique de l'endroit. C'est-à-dire qu'on est plus menacé par d'autres gangs qu'à l'intérieur par la violence ou le... Et d'ailleurs, c'est ça, ces types, ils sont très... Et c'est ça l'ambiguïté. Ils sont à la fois d'une gentillesse et d'une beauté totale et d'un danger complet.
À rebours des reportages télévisés, aimantés par la violence du ghetto, My Crazy Life se tient à l'écart de tout passage à l'acte. Même le policier, dont le film suit par intermittence et les rondes de nuit, va à l'encontre de tous les clichés du genre. Il joue les oncles sévères mais bienveillants, plutôt que les redresseurs de tort. Et sa seule intervention, dans le film, servira à calmer une scène de ménage. Here we go, are you ready for one other? Dream Warriors noise is new discover. Dans ses films précédents, Poteau et Cabingo et Routine Pleasures, Jean-Pierre Gorin restait présent par sa voix off. Ici, la configuration particulière du ghetto, son danger, son hermétisme pour l'étranger, pousse le cinéaste à passer le relais à trois alter-ego. Le policier, son ordinateur de voiture doué de paroles, tel le HAL de 2001, l'Odyssée de l'espace, et enfin le gangster qui conduit les entretiens. Sur le modèle de Moi un noir de Jean Rouch, Gorin fait participer ses acteurs à l'écriture du scénario. Le ghetto qui s'invente devant sa caméra n'a plus rien d'exotique. S'il a devant lui des hommes qui ont déjà tué plus d'une fois, Jean-Pierre Gorin, lui, saisit leur quotidien dans toute sa monotonie. quand ils repassent leur bandana, font du rap ou tapent le carton. Dans My Crazy Life, la violence du ghetto ne s'exprime pas par des fusillades. En revanche, elle imprègne chaque vocable de l'argot gangster.
Qu'est-ce qu'un OG ? C'est un gangster d'origine. Tu sais, à l'ancienne, un gangster du temps où j'étais encore dans les couilles de mon père. Qu'est-ce qu'un bébé gangster ? C'est un pisseux comme moi et tous les potes ici. Tu sais, un gosse qui essaye de se faire un nom. Qu'est-ce qu'une chercheuse d'or ? C'est une salope qui vient dans ton quartier et essaie de sortir avec toi pour ton fric. Moi, on me la fait pas. Qu'est-ce qu'un strap ? C'est un flingue. Qu'est-ce qu'un tat ? C'est ce que j'ai sur le corps. Un tatouage fait avec une aiguille ou peint. Qu'est-ce qu'un sissi ? C'est un... 6-0 de Los Angeles. On les emmerde, ces cons. Qu'est-ce qu'un primo ? C'est un mélange d'herbes et d'une autre drogue, de la cocaïne, et ça fait vraiment planer. Qu'est-ce qu'un sherm ? C'est une cigarette trempée dans du liquide pour conserver les morts. Tu fumes ça et ça te fait un effet de dingue. Faut faire gaffe.
Sea rag
is our color. Flag of justice.
What's a rip?
Something like me, a crip.
Qu'est-ce qu'un crip?
A nigga that claim cuz, slob killer.
C'est un tueur de bloods.
What's a gauge?
Qu'est-ce qu'un gauge? C'est un fusil à pompe.
Big rifle that you pump and you shoot slides with.
Pour tuer les bloods.
All right, it's my shot, brother.
À mon tour, mon frère.
For all you motherfuckers that don't understand what they're saying, this for all you IBM motherfuckers. This is straight from the gangsterhood, you know what I'm saying? Trey Love.
Et vous, les cons qui nous écoutez sans comprendre. C'est direct du quartier des gangsters. Vive le gang. On est les Crips de la 32e rue.
What's that out?
I'm rocking back to back, leaving a narrow track for perpetrating MC to try to pick up the slack. You got a ways to go before you blend with the flow like in a tick. You got Jack, now I'm rocking it back to back.
Come on, Bink's gonna kill him.
Diamond ring? Let me see. What's your point?
Shame on you.
Okay, for the people that don't know, state your real name and street name.
Bon, pour les gens qui connaissent pas, décline ton nom et ton surnom.
Nickname, Psycho. From the big S for West
Andrew Fulmono, D-Psycho, du Grand Gang S de l'Ouest.
How long you been a gang, man?
Depuis quand es-tu dans un gang?
Since nine years old.
L'âge de 9 ans.
Was it the thing to do back then?
C'était ce qui se faisait à l'époque.
The only way to survive in this neighborhood.
C'est la seule façon de survivre dans ce quartier. Tu peux rien faire d'autre que d'entrer dans un gang. Et être du gang S, ça te rend fier. À l'époque, oui, j'étais très fier. As-tu commis des crimes graves?
Three times.
Oui, trois.
Three times. That's about it. Other things, selling dope.
Have you ever done any drugs?
Yeah, hell yeah.
Et la drogue?
Then you did coke,
weed. Ah oui, ça j'ai tout fait.
Sniffing
cocaïne.
Sniffing that herbe. Crystal. Oh damn near. The only thing I don't fuck around with.
J'ai sniffé du cristal.
My language is all that heroin. No, that needle.
La seule chose que j'ai pas touché, c'est l'héroïne, la seringue.
So, but you mess with everything else.
Mess with everything else.
So what's the difference with fucking with everything else and then messing with the stuff?
Pourquoi, quelle différence?
I don't know. It was like, I think you'd be more addicted on that heroin than anything else you would, you know.
Avec l'héroïne, t'es plus accro.
And everything else was like a natural high, you know. I've been to like to the pen, to the county. I've seen people, you know, react.
En prison,
you know, I see how they react, you
j'ai
know.
Vu des héroïnomanes.
You know, it's like for me to clean my system, but then when you see all them heroin people, they feeling
eux,
like
ils sont
this,
complètement
you
détruits.
Know, and they're looking for a hit.
Et ils cherchent encore à se piquer. Tu avais quel âge quand
10,
tu as été en prison pour la première fois?
10-11
ans.
What you get incarcerated for?
Et c'était pourquoi?
Incarcerated. Oh, for beating up the counselor at school.
Tu avais tabassé le surgé à l'école.
Okay, if you had a choice between taking out a black crip, say you loved.
Si tu avais le choix entre descendre un membre de ton gang, les Crips, et descendre un Samoan, mais qui est du gang Blood, qu'est-ce que tu ferais?
It depends, like if that Samoan slide with my family.
I mean,
well, then, you know, then another way.
I mean, or say it wasn't your family, he's just a Samoan guy that's a Blood.
Well, that's kind of like, I think I'd take off. I'd take that Samoan out.
Si le Samoan des Bloods n'est pas de ma famille, mais je le tuerai. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fonctionne.
Yeah, they show that, but in the pen, see, that's about the only thing they show love. You know, you take them up under the wing. You know, Samoan Bloods. You know, Samoan Crips. You know, they get together in the pen.
I mean, why? They're arch rivals.
You know, you can't do nothing about it. You know, you. You're there, you know, you gotta live with it. You know, you gotta live together for the next 3 years, 2 years.
So basically all Samoans...
En prison, ce serait différent.
You know, either rivals...
Mm-hmm.
Or not, they all stick together in the penitentiary.
In the penitentiary.
Okay, say you're with the Samoan that killed your brother.
Et si le Samoan avait tué ton frère?
I kill him back.
Alors là, je le tue à mon tour.
Jean-Pierre Gorin, cinéaste.
Il y a des moments d'interview dans le film où des questions sont posées aux gangsters, je les appelle gangsters, c'est les membres du gang. Mais elles sont posées par quelqu'un qui fait partie du gang lui-même et qui est ce qu'on appelle un OG, c'est-à-dire un original gangster, c'est-à-dire les couches les plus vieilles du gang, et qui donc pose des questions au sujet de l'intérieur. Et les réponses, en fait, il faut savoir les déchiffrer, mais elles sont assez étonnantes parce que c'est en fait, d'une certaine façon, c'est un moment où les gangsters parlent aux gangsters.
Au fil des entretiens, apparaît la vérité contradictoire du gang. C'est un clan guerrier, où s'exprime la violence la plus brutale, mais c'est aussi un cocon maternel. Comme James Cagney dans L'enfer est à lui, de Raoul Walsh, le gangster est un cœur tendre qui cherche le réconfort auprès de ses homeboys et n'aura accompli tant de crimes que pour prouver à sa maman qu'il est le plus fort. Capable de tuer de sang-froid, certes, mais versant une petite larme sur les malheurs des siens.
Fritz Lang disait que la fiction n'achève les pouvoirs maximum de, un film n'achève les pouvoirs maximum de fiction que quand il devient un documentaire. Je me suis toujours dit, moi, bon, quand j'ai commencé à faire des documentaires, c'était parce que je voulais raconter des histoires. Hein. C'était assez frustrant pendant la période du groupe Tigavertov de ne pas le faire. Et je voulais raconter des histoires, donc il me semblait qu'en fait, on pouvait retourner la proposition de Fritz Lang et se dire que peut-être le documentaire n'achevait son maximum, son pouvoir maximum, que s'il devenait fictionnel. Alors on met du mystère là où on sait, d'une certaine façon, on a résolu le mystère, on reconstruit le mystère des choses.
it. Course, I grab the mic and get down like syndrome. Heading roam into the masses without boundaries, which qualifies me for the term universe. Without no rehearsal, Hollywood words is controversial. Like I'm not the one you wanna contest, see? Cause I'll hit your ass like the train did that bitch that got banned from TV. Heavyweight, get up. Hit you, watch your whole head split up. Local is the motion, we coming through. Hollow tips is the lead, the 45 through.
Remember me?
Throw your guns in the air.
Remember me?
Slam, slam.
Remember me?
Nigga, back the fuck up.
Remember me?
Niggas that take no for answer, get told no. Yeah, I've been told no, but it was more like no, no.
Prenant le contre-pied d'un enregistrement neutre du réel, My Crazy Life passe donc par le détour de la fiction pour approcher la vérité du ghetto. 10 ans plus tard, comme Jean-Pierre Gorin, le cinéaste Larry Clark se laisse rattraper par l'incandescence documentaire de son sujet. Parti tourner une fiction à Los Angeles, il sympathise avec un groupe de jeunes skaters latinos du ghetto de South Central. Il les fréquente longuement avant de réaliser What's Up Rockers. C'est un fait divers qui lui dicte l'ouverture de son film. Creeper, l'un des amis de la bande, est abattu en pleine rue avant le début du tournage. Mais Larry Clark mêle le conte de fées à son approche naturaliste. Parti dans les quartiers huppés de Beverly Hills à la recherche d'une belle pente de skate, les garçons se retrouvent en pays de cocagne. Soudain, des créatures de rêve les invitent dans leur maison de poupées. Regarde-moi ce cul. J'aimerais bien le voir sans son jean.
Plan serré sur les fesses de Jonathan.
Moi j'aime bien le petit. Bien foutu et joli petit cul.
Chant contre chant.
Salut, vous êtes d'où? South Central, le ghetto.
You're a good skater.
T'es bon en skate.
I had a bad day.
Ouais, c'est pas mon jour.
We live in Beverly Hills.
On vit à Beverly Hills.
My house is right up there.
Ma maison est juste là-haut.
You're welcome anytime.
Tu viens quand tu veux.
Okay.
Plan serré sur les mains de la fille qui caresse les cheveux puis les fesses de Jonathan. Trois garçons blancs entrent dans le champ.
C'est la maison avec la fontaine et la décapotable rouge devant. Tu viens quand tu veux.
And I mean that.
Jade, let's go. I gotta meet with my trainer at 3.
Jade, on y va? J'ai un train à prendre.
I said let's go.
Allez, on y va.
Hey, you're gonna get all grabby with her.
Hey, hey, la tire pas comme ça. Je te parle pas, sale mexicain.
Oh, I'm sorry.
Je suis guatémaltèque. Oh, désolé, sale guate.
Bye.
Bye, sexuals.
Plan large sur les garçons blancs qui emmènent les filles.
Par le choix de ses héros, What's Up Rockers tente de déconstruire le cliché du ghetto. Jonathan, Kiko et Milton, minorités latino dans un ghetto principalement noir, s'habillent comme des punks et écoutent du rock. Le film pointe une réalité mal connue. La rivalité constante entre noirs et latinos, qui représente aujourd'hui 70% de la population de South Central. Déjà en 1992, les médias avaient préféré montrer les émeutes de Los Angeles comme une insurrection entièrement noire. Traité de rocker par les rappeurs noirs au pantalon baggy, Kiko et ses amis ne résistent pas seulement à une mode vestimentaire dominante, mais à travers elle, à l'injonction de rejoindre un gang. Si ces jeunes fascinent Larry Clark, c'est par leur part d'enfance, rempart contre le jeu de massacre des gangs. Là où les gangsters quadrillent un territoire verrouillé au millimètre, les ados skaters n'hésitent pas à prendre plusieurs bus pour sortir du ghetto. Mais les préjugés du zonage urbain ont la vie dure. Sous surveillance et a priori suspect, tout jeune du ghetto y est assigné à vie. S'il en sort, il est ramené manu militari à la niche, psychose sécuritaire oblige.
Gros plan sur le policier qui vient de garer sa voiture.
Venez ici. Allez, on y va.
Come on, let's go. Sit on the curb, hands on your lap so I can see them.
Asseyez-vous sur le caniveau, les mains bien en vue sur les genoux.
Did you guys see the signs?
Vous avez vu les panneaux?
No skateboarding signs.
Les skates sont interdits.
Hands on your lap so I can see them.
Rocker, policier, chant contre chant.
What did we do wrong, player?
Qu'est-ce qu'on a fait de mal?
Where are you guys from?
Vous venez d'où? South Central.
What are you doing here in Beverly Hills?
Qu'est-ce que vous faites ici à Beverly Hills? On fait du skate.
We want you skaters for 3 months.
Je vous ai déjà prévenu.
First time here.
C'est la première fois qu'on vient ici.
We took 2 buses.
Comment vous êtes venu ici? On a pris 2 bus.
What else you guys doing in Beverly Hills, huh?
Et alors, qu'est-ce que vous venez faire ici?
We're just skating.
Mais on fait du skate.
Lincoln 1, got code 4 right now.
Lincoln 1.
7, South Central.
J'ai 6 ou 7 mecs de South Central.
We're Salvi.
Les Mexicains. Mais non, on est salvadoriens et guatémaltèques. On peut rentrer chez nous?
Can we go?
Not yet.
Non, pas encore.
What's your name?
Ton nom?
Eddie. Eddie what?
Rivas.
Eddie quoi?
How old are you?
Rivas.
17.
Quel âge? 17
ans. You have your ID on you?
T'as tes papiers?
You're 17, non. You don't have ID.
I don't care.
17 ans et pas de papiers.
Your address.
116.
Ton adresse.
Speak up.
116 and a half West.
116 et demi, 112e rue Ouest.
Zip code.
90072.
Code postal.
What's your name?
Et toi,
Jonathan.
Ton nom?
Jonathan what?
My last name.
Jonathan quoi?
What's your address?
Ton adresse?
Where's 112th Street?
You guys live together?
Vous habitez ensemble?
Why
ils sont frères.
Last names?
Alors pourquoi vous avez deux noms différents?
Different fathers, it's typical.
Ah bah oui, pas le même père, évidemment.
Then why do you have different last
names? Si, on a le même père. Alors pourquoi pas le même nom? Il a pris le nom de sa mère.
How old
toi, ton âge?
15.
15 ans.
What's your name?
Toi, tu t'appelles comment?
Kiko.
How old are you?
15.
Ton âge?
What's your address?
15 ans.
116 and
ton adresse?
112.
What's your zip code?
Louis, what's the zip code?
Ton code postal?
90061. You guys all live in the same place?
Yeah.
Vous vivez ensemble?
What's your zip code?
It's the same as his.
C'est quoi votre code postal?
What do you mean, same as his? I asked you a little while ago, what did you say? You said 90072. Now it's same as his? Which is it?
We don't know zip codes.
On connaît pas les codes postaux.
You, how old are you?
Et toi, t'as quel âge? 15 ans.
I told you not to lie to me. You're going to jail. Do you understand me?
Tu mens, mais tu vas aller en prison, tu comprends? Mais c'est la première fois qu'on vient ici. Pourquoi vous nous emmerdez?
We're just skating.
Yeah, you're gonna get a ticket.
Je vais vous coller une amende. Toi, tu t'appelles comment?
You their brother?
No.
T'es leur frère?
How old are you?
13.
T'as quel âge?
13.
13 ans.
You fucking with
tu te
me
fous de moi ou quoi?
You lying to me?
T'es le plus grand ici. Tu me mens encore. Je vais te foutre en prison.
What's your address?
Si, il a 13 ans. Il est grand, c'est tout. ont ton adresse.
I'm speaking to you.
They have your address.
116, where? I don't know.
I am sick of you, you little shits are fucking lying to me.
T'es merdeux. Arrêtez vos bobards. Toi, pourquoi tu rigoles?
What the fuck are you laughing at? This is serious. You're gonna go to fucking jail, you understand me?
Tu sais que tu risques la prison.
For 3 goddamn months, you understand me? Now you're getting a fucking ticket.
And that hope.
What'd you say?
Nothing.
Qu'est-ce que tu m'as dit là? Rien.
You don't belong here.
Why?
Vous n'avez rien à faire ici.
Yeah.
Pourquoi? Parce qu'on est South Central? Oui.
Hey, get back over here. Sit down. Get out of there.
La caméra recadre la voiture. Milton vole le déjeuner du policier sur le siège avant.
Pose ça. Ne bouge plus.
Cadre serré sur Milton, qui commence à déballer le sandwich.
Si vous ne relâchez pas, je le mange.
Contre-plongé sur les escaliers, où le policier poursuit les rockers en fuite. Il en rattrape un.
Retourne-toi. Tes mains, reste tranquille, sale petit con.
Dans cette métropole centrifuge, si tu descends de ta voiture, tu es un délinquant. Dès l'instant où tu te mets à marcher, tu es une menace pour l'ordre public, comme les chiens errants sur les routes. Seuls les immigrés du tiers-monde ont le droit de marcher. C'est leur privilège, en quelque sorte, lié à celui de l'occupation du cœur vide des métropoles. Pour les autres, la marche, la fatigue, l'activité musculaire sont devenus des biens rares, des services qui se vendent très cher. Ainsi s'inversent ironiquement les choses. De même, les files d'attente devant les restaurants de luxe ou les boîtes à la mode sont souvent plus longues que devant les soupes populaires. C'est ça la démocratie. Les signes les plus pauvres auront toujours au moins une chance de devenir à la mode. Jean Baudrillard, Amérique.
Where are you from?
I live in the ghetto.
What do you mean by that?
In South Central.
What's it like down there?
It's crazy down there. You can't be walking down the streets by yourself. You get jumped or jacked. Either way, it's still bad, right?
That's crazy. What brought you here anyways?
The skate spot we met you in.
So you came all the way down here just to skate?
Yeah.
Nous sommes du ghetto. Quand les jeunes latinos de WhatsApp Rocker répondent impassibles à tous leurs interlocuteurs qu'ils viennent de South Central, ils retournent à leur avantage un mot qui les stigmatise. Le mot « ghetto » est en effet devenu tabou dans le vocabulaire américain. Il a été remplacé par le mot « inner city », ville intérieure. La municipalité de Los Angeles a rebaptisé en 2003 South Central en « South Los Angeles ».
Who cared about the community.
Aye. Aye.
I'm alright if you're alright.
I'm alright.
I'll be better. Get some of that bass. You know what I'm saying?
À l'instar du mouvement queer, par lequel les homosexuels ont repris à leur compte l'insulte qui les stigmatisait, à l'instar des Noirs qui se revendiquent « niggers » pour neutraliser par la surenchère toute injure raciste, les habitants du ghetto, par défi et par fierté, se réapproprient le mot imprononçable. C'est que les enjeux se sont déplacés. Il y a 20 ans, le seul but envisageable pour un habitant du ghetto, le seul idéal, était d'en sortir. Aujourd'hui, en partie grâce au succès du gangsta rap, il ne s'agit plus d'échapper au ghetto, mais d'en retirer des dividendes. Boys in the Hood, 8 Mile, Rise, Réussir ou Mourir. La vogue des films de rap a prouvé que la culture du ghetto était largement monnayable. Sachant qu'ainsi, le risque est de la voir se rabattre sur une poignée de clichés. Chaînes en or, gros calibres et décapotables. Pourtant, quelques documentaristes continuent, en artisans, à inventer des modes d'approche anti-exotiques. Car faire fictionner la réalité du ghetto, c'est cela aussi, lui permettre de se rêver différente, de décliner tous les possibles d'un scénario social a priori univoque. Filmer le ghetto avec
Jean-Pierre Gorin.
Texte Jean Baudrillard. Film Hoop Dreams de Steve James, Frédéric Marx et Peter Gilbert. My Crazy Life de Jean-Pierre Gorin. Et What's Up Rockers de Larry Clark.
Demain, au-delà du Rio Grande, dans les cimetières du rêve américain. Une autre Amérique. Le cinéma documentaire Made in USA. Charlotte Garçon,
Elisabeth Le Quéré,
Mehdi Eladj,
Benjamin Vignal.
Nous retrouvons Charlotte Garçon, Elisabeth Le Quéré et Mehdi Eladj pour cette deuxième partie de Sur les docs avec L'art d'aimer le cinéma américain. Entretien avec Jean-François Richet.
Jean-François Richet, né en 1966, est l'un des rares cinéastes français de sa génération qui ont pu partir tourner à Hollywood. Pourtant, c'est en banlieue parisienne où il a grandi qu'il tourne ses trois premiers longs-métrages, d'abord autoproduits. État des lieux, en 1993, Ma cité va craquer, qui sortira en 1997, et De l'amour, en 2001, une fiction écrite à partir d'un fait divers. En 2004, changement de décor. Jean-François Richet traverse l'Atlantique pour tourner un remake de Assaut de John Carpenter, avec un casting impressionnant et entièrement américain. Tourner aux États-Unis pour un Français, c'est se mesurer aux légendes du cinéma. Mais si c'était aussi et même surtout, tirer les enseignements d'un artisanat qui n'a son pareil nulle part ailleurs.
Comment je suis passé de l'état des lieux, c'était mon premier film que j'ai tourné en 93, qui est sorti en 95, mais que j'ai tourné en 93, à Assaut, le remake du film de John Carpenter. Il y a 10 ans, quoi. Il y a 10 ans d'écart. Et je ne pense pas que la différence fait parce que je tourne en langue étrangère. Non, c'est pas du tout. Puis ils ne sont pas venus me chercher. J'étais les voir, quoi, avec un projet qu'on a développé d'abord en France. Et ensuite, j'ai proposé à plusieurs studios américains. J'ai choisi Focus Features, qui avait produit 21 Grams et Lost in Translation. Et je savais que j'avais une attitude artistique supérieure aux autres studios, donc j'ai été vers eux, quoi. Mais ils ne sont pas venus à moi, non.
Est-ce que vous aviez l'idée au départ de faire un remake d'un film de Carpenter parce que c'était votre cinéaste de chevet ou de prédilection, ou est-ce que vous étiez déjà très centré sur Assault?
Ce qui m'intéresse, c'est la thématique de l'enfermement, quoi. Je pense qu'il y a deux genres de réalisateurs. Enfin, je pense il y a ceux qui traitent de la mélancolie et ceux qui traitent de la paranoïa. Moi, je suis plutôt dans la paranoïa, quoi. Carpenter, il est aussi dans la paranoïa, quoi. Et moi, ça m'intéressait de travailler à huis clos parce que c'était la chose à quoi je voulais me confronter, parce que c'est ce qui, pour moi, c'est ce qui me semblait le plus dur, d'être basé que sur les acteurs. Et puis en plus, un lieu pratiquement unique. Donc plutôt que de piller Carpenter, et je voulais faire un film urbain, j'ai demandé les droits à Carpenter. Carpenter, il est un peu à part pour beaucoup de jeunes metteurs en scène, parce que c'est un des derniers Mavericks, un peu anarchisant Hollywood, et qu'il arrive toujours à faire ses films, même avec des bouts de ficelle, mais il y arrive. Donc c'est aussi un modèle dans comment survivre dans un système plutôt agressif, qui pense d'abord à l'argent plutôt qu'à l'artistique. Mais c'est pas pour ça que c'était mon réalisateur de chevet, non. Je pense pas, quoi. Mon réalisateur de chevet, c'est plus Vertov, Eisenstein ou John Ford que Carpenter. Il traite toujours de la même thématique dans ses films, ça m'intéresse aussi de me réapproprier le sujet. Mais aux États-Unis, il a été vachement comparé plus dans la thématique au film de War Hawks que de Carpenter. Et d'une certaine façon, je pense que c'est assez juste. Ouais. Parce que la menace chez Carpenter, elle est toujours très fantastique, elle est toujours virtuelle, sauf qu'il l'a tournée dans les années 70. Nous, on est en l'an 2000. Je pense que l'ennemi est à l'intérieur plus qu'à l'extérieur et qu'il a pu être fantasmagorique comme ça. Je trouve qu'il avait très bien fait. Lui, on pouvait pas dépasser. Sa représentation de l'ennemi, elle était trop abstraite, elle était indépassable. Donc, il fallait que je fasse autre chose pour que je puisse m'approprier le sujet. Voilà, tout simplement, quoi.
La critique américaine a plutôt rattaché votre film au western Rio Bravo de World Hawks qu'au film de Carpenter. Est-ce que justement le western, enfin quand vous citez John Ford, justement, est-ce que le western n'est pas quelque chose qui est très important pour vous, justement sur cette question du partage du territoire, qui ramène aussi à vos premiers films, État des lieux, Ma cité va craquer.
Le western, c'est le genre de prédilection que j'apprécie, que j'affectionne le plus, ouais. Après, il y a plein de films que j'aime, mais en général, le western et le film de guerre, en général, c'est ce que... Dans les situations extrêmes, c'est là que les personnages peuvent se révéler dans l'extrémité. Donc moi, j'aime ça, ouais. J'aime beaucoup... La prisonnière du désert de John Ford, pour moi, c'est un film de chevet, quoi. En tant que metteur en scène, surtout avec les films sociaux que j'ai faits, je me suis toujours posé la question que... Est-ce qu'il faut filmer le mythe, comme le dit John Ford dans le film, ou est-ce qu'il faut filmer la réalité ? En même temps, le cinéma, il faut avoir conscience que c'est un art populaire et c'est un art chaud, donc c'est pas un art de réflexion, je pense. On a toujours tendance à aller vers le mythe, quoi, et il faut toujours se réfréner, quoi. J'essaie toujours d'être dans la réalité. Par exemple, quand je filme la violence, moi, j'aime bien que les personnages se révèlent dans la violence, par exemple quand dans l'assaut, mais la violence, elle est jamais un but en soi, et je suis pas très friand, comme elle est actuellement dans le cinéma américain, enfin pour une grande partie. Une violence chorégraphée comme un ballet, quoi. Je suis pas du tout proche de John Woo, je suis pas du tout proche de Tarantino. Le seul gars qui m'interpelle dans la violence et qui est plus exacerbé que stylisé, ça serait Peckinpah. Ou là, oui, je comprends. Là. Mais ça serait peut-être l'extrême. Sinon, j'aime plutôt la violence comme... Il y a un film qui s'appelle Narc de Carnahan qui a fait un film à 3 millions de dollars. Ou alors un film comme French Connection. Voilà. Je me sens plus proche de ça. Qu'une stylisation de la violence, quoi. À l'heure actuelle, peut-être que ça arrivera peut-être par la suite, mais à l'heure actuelle, j'ai du mal à filmer la violence avec des ralentis, avec des effets un peu comme ça, un peu faciles, quoi. Je m'imagine toujours, exemple dans l'assaut, je me suis dit, voilà, c'est simple, c'est la guerre en Serbie, quoi. Je me dis ça. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est plus des flics ni des prisonniers, c'est comment on doit survivre. Et je pense que dans cette situation-là, c'est sans pitié, quoi. Sinon, c'est soit quand c'est toi ou quand c'est eux, non, pas plus de morale, quoi. Après, le cerveau, il s'arrange ou il s'arrange pas, mais si tu dois survivre, à un moment, et que les mecs, ils ont des gilets pare-balles, tu tires dans la tête, parce que c'est la seule solution, quoi. Donc c'est vrai que ça a été reproché, ouais, ils tirent toujours dans la tête, mais oui, mais c'est une nécessité pour eux. Si tu tires pas dans la tête, ils meurent pas. Donc c'est juste nécessité fait foi, quoi. La morale, elle se situe pas là. Comment quelqu'un doit mourir. Il doit mourir de la façon la plus efficace possible, parce que il faut qu'il meure, quoi. Mais la morale, elle ne se situe pas là. La morale, par exemple, du film serait que si on comprend que Ethan Hawke, c'est l'Amérique telle que moi je la ressens, c'est-à-dire qu'une Amérique dépressive, aussi sous calmant, qui croit posséder le bon droit, mais à un moment, à la fin, elle perdra quand même parce que tous ses alliés ne croient plus en elle. On a la clé, quoi, de ce que. Et ce que j'aime aussi dans la vraie violence, c'est plus de cet ordre-là. Et ça serait aussi, est-ce que l'ennemi est à l'intérieur ou pas? Est-ce qu'on doit faire confiance à ceux qui nous représentent? Est-ce qu'on doit faire confiance à l'État? D'un terme plus général, et c'est en ça que je pense que c'est aussi un film d'auteur et qui qui est beaucoup plus proche, par exemple, Ma cité va craquer, que mon troisième film de l'amour, quoi.
Jean-François Richer, vous parlez de la violence d'État. J'imagine que c'est la raison pour laquelle s'est opérée dans votre remake du film de Carpenter cette petite translation où tout à coup ce sont des policiers qui vont attaquer le commissariat. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous considérez que Batman 2 est un grand film politique ?
Ah oui, Batman 2, c'est un très grand film politique, je crois, ouais. Batman de Tim Burton et même le dernier de Nolan, je trouve que c'est extrêmement fort. Qu'est-ce qui engendre le mal, qu'est-ce qui crée le mal, comment s'ériger au-dessus de la société, comment on peut être juge et arbitre et bourreau en même temps. Et un truc très intéressant dans la thématique de Nolan, le dernier, Batman Begins, c'est qu'on s'aperçoit que sans Batman, il n'y a pas les fous qu'il a créés, il n'y a pas le mal qu'il a créé. Et je trouve que c'est un bon reflet de ce qui se passe actuellement au niveau international. Et je trouve que c'est des vrais films politiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment, avec un code hollywoodien, on arrive à avoir une profondeur comme ça. Alors, on le savait que Scorsese pouvait le faire avec ses films, mais on peut s'apercevoir que même avec des films de super-héros, on peut le faire. Quand on traite comme ça, ouais, d'une thématique, qu'est-ce que le fascisme à travers un super-héros, je trouve ça beaucoup plus intéressant que qu'est-ce que l'adolescence ou la puberté par rapport à Spider-Man, quoi. Moi, j'adorerais faire un truc de super-héros, ouais, sans problème, ouais.
Vous, ce qui vous intéresse, enfin la ligne rouge, si j'ose dire, de vos films depuis État des lieux, c'est la violence d'État. Et justement, la violence d'État, c'est peut-être ça aussi la raison de votre rapport très fort avec le cinéma américain. C'est que, surtout depuis les années 70, mais même avant, c'est un cinéma qui n'a cessé de proposer des mises en scène de la violence d'État.
Oui, effectivement. Puis il y a un super film qui a été fait là, par Tony Scott, là, je ne sais plus comment il s'appelait...
Ennemi d'État,
c'était vraiment bien ça. Je trouve que c'était un film parfait. Ça allait très bien avec Tony Scott parce qu'il a une réalisation un peu paranoïaque avec un plan toutes les deux secondes. Et ça allait super bien avec le sujet pour une fois. Je trouve que c'est un grand film. Moi, je ne m'analyse pas le travail. Après, je peux parler de mon travail comme ça. Je trouve que quand on commence à s'analyser, c'est la mort de notre cinéma.
Jean-François Richer, comment on travaille avec une équipe américaine ?
Aux États-Unis, il y a une différence de méthode parce qu'ils sont beaucoup plus compartimentés et moi, ça me va. Il faut être beaucoup plus préparé, ça me va aussi. Il y a une rigueur qu'on n'a pas ici, parce que c'est moins compartimenté, donc c'est moins rigoureux en France. Moi, je préfère la méthode de travail américaine qu'en France. Maintenant, j'ai pas beaucoup d'expérience en France, j'ai fait 3 films, mais c'était 3 films pas forcément avec des acteurs professionnels, pas forcément les meilleurs des techniciens non plus. Mais en tout cas, la méthode de travail que j'ai eue là-bas, je l'importe ici en France pour faire mes screens. Ouais. D'ailleurs, je reprends quelques techniciens américains... avec qui je me suis entendu, notamment le monteur et le chef opérateur. Alors, nous, notre côté un peu dilettante en France, ça fait d'autres films qu'eux, ils ne peuvent pas faire. Mais moi, à l'heure actuelle, à part quelques exceptions comme Beauvois, Boukrieff ou Audiard, je me sens plus de points communs avec les metteurs en scène d'un sens large américain qu'en France. Ouais.
C'est quoi ces points communs que vous sentez avec des cinéastes américains ?
Ne jamais se croire supérieur au sujet. On peut voir les catastrophes que ça peut faire. Par exemple, un très bon metteur en scène comme Ang Lee qui fait Hulk, c'est ridicule parce qu'il ne respecte pas le personnage. Il y a une faculté d'adaptation. Moi, je sais, sur le plateau, j'avais des acteurs. J'avais Ethan Hawke qui sortait de Richard III. J'avais Denis qui avait joué aussi Shakespeare. Il y avait Laurence Fishburne qui avait fait Othello. Et ils abordent le sérieux, ils abordent le caractère, le personnage de la même façon que c'était Shakespeare, même si tu fais une série B, quoi. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que tu fais. C'est-à-dire que c'est pas dégradant pour eux de faire de la télévision, c'est pas dégradant pour eux de faire des voix off, c'est pas dégradant de faire un Shakespeare, ni de faire un saut sur Central 13. Ça, c'est vachement agréable, quoi. Je m'attendais à un truc beaucoup plus business, pas du tout. Ils sont pas du tout business. C'est-à-dire que quand t'as un budget et que tu le respectes, et que qu'ils ont l'impression qu'on fait le même film, ils te foutent une paire royale. J'étais super étonné. Moi et mon producteur, il s'appelle Jeffrey Silver, un producteur américain qui avait fait Training Day. J'avais réécrit une scène à la fin de l'assaut où ils étaient enchaînés avec des menottes et ils se sauvaient dans les bois. J'avais fait un découpage. Il me fait, ouais, c'est bien, c'est comme The Grid de Von Stroheim. Et je me dis, putain, le film, il est inachevé, il savait ce que c'était, quoi. Et ça m'était complètement influencé de ça, quoi. J'étais estomaqué, quoi. Moi, on m'a jamais sorti un producteur qui m'a jamais parlé de Von Stroheim, quoi, en France. Pareil, quand j'ai montré Ma cité va craquer à Bill Penko, qui est, en même temps, c'est pas n'importe qui, c'est le monteur de De Palma. Il y a 2 sortes de montage. Il y a le montage un peu soviétique après la Révolution, où la coupe est le plus important, donc il faut qu'on la voit, la coupe. Alors qu'en général, à Hollywood, la coupe au montage, bah, on essaye de l'effacer. Et tout de suite, il me parle des réalisateurs de prédilection, Vertov et des Einstein, sans que je lui en parle, quoi. Ils sont surprenants. Mais j'ai du mal à penser, même si après on a une culture différente d'eux et tout, j'ai du mal à penser en termes de nationalité, et surtout là-bas, les réalisateurs, il n'y a pas beaucoup d'Américains encore, quoi. En tout cas, ils sont de culture pas forcément américaine. Donc je ne sais pas ce que j'en pense. À retourner là-bas, c'est sûr. Je me suis fait plutôt violence pour revenir en France. C'est vraiment parce que là, pour une fois, on me proposait un truc vraiment intéressant qui était Mesrine, et je me suis dit, si je ne tourne pas Mesrine, je ne retournerai plus jamais ici, quoi. Donc je suis resté en France. Mais par la suite, c'est vrai que je vais faire un film aux États-Unis qui est en train de se développer, là. Ouais. J'ai du mal à accepter des trucs de studio encore. Parce que quand tu acceptes un scénar, entre parenthèses, clé en main, tu ne peux pas changer tant de choses que ça. Et ça, j'ai du mal, quoi. Je préfère développer mon truc, pas faire des gros budgets et avoir le final cut, en tout cas essayer de l'avoir.
Jean-François Richer, est-ce que vous avez grandi en regardant des films américains ?
Qui en France n'a pas grandi en regardant des films américains ? Et en regardant presque exclusivement que ça ? Moi, j'ai eu cette chance de ne pas avoir que ça. Mais beaucoup de metteurs en scène qui ont entre 30 et 40 ans ne connaissent pratiquement que le cinéma américain. Il y a même des trucs qui sont aberrants. Ouais. Et des réalisateurs qui crachent sur la nouvelle vague en encensant Scorsese et Coppola, il faut juste qu'ils s'aperçoivent que sans Godard et sans Truffaut, il n'y a pas Scorsese, quoi. C'est des trucs aberrants. Donc moi, je pense que mon terreau principal, ça serait le cinéma soviétique, déjà par idéologie, enfin d'époque, hein, entre 1917 et 1927. Après, je dirais le cinéma américain et la nouvelle vague au même niveau, ouais. Je me suis beaucoup plus, ça fait paraître bizarre, mais je me suis beaucoup plus influencé de Cléo de 5 à 7 et d'À bout de souffle quand j'ai fait Assaut que d'un Scorsese, par exemple. La force du cinéma américain, c'est que même quand le discours il est réactionnaire, conservateur, c'est toujours bien fait. Il y a toujours quelque chose à prendre quand même. Parce qu'ils savent s'entourer de bons, assez souvent. Dans la forme, c'est rarement médiocre. Même les films de Michael Bay où tu ne comprends pas l'espace, c'est parce que soit il ne sait pas le faire, soit il ne veut pas le faire. Il y a toujours un truc à faire, il y a toujours un truc à prendre dedans, je trouve.
Jean-François Richer, quand vous partez tourner aux États-Unis, pour vous, est-ce que c'est simplement un lieu de travail, comme un autre ? Ou est-ce que c'est un territoire quand même qui reste mythologique ?
Les deux. Là, je me suis fait un trip, 3 semaines en voiture, parti voir tous les endroits où John Ford il avait tourné, dans le Grand Ouest. Vous voyez, il y a ce côté mythique, mais qui se démystifie assez vite. Il y avait des metteurs en scène que je trouvais très bluffants avant d'aller aux États-Unis. Puis quand j'ai vu que là-bas tout était possible, ça m'a moins bufflé, quoi. Par exemple, j'ai David Fincher, que j'adore, Fight Club, et c'est vraiment un super bon film. Mais dans la mise en scène pure, je me suis dit, ouais, mais c'est simple, hein, il faut une maquette en 3D, et la caméra, tu la passes où tu veux. Tu peux la rentrer dans la serrure, elle ressort, et c'est ce qu'il fait, quoi. Là, qu'ils ont des budgets pas illimités, mais ils ont des budgets, ils peuvent tout faire, ils rentrent tout en 3D dans un ordinateur, et puis c'est ce qu'ils font, quoi. Et maintenant, ce qui m'impressionne beaucoup plus, et ça, je reviens au côté fordien, c'est que la caméra, on la bouge pas si on n'est pas obligé de la bouger. Ce qui m'impressionne beaucoup plus, c'est, même si il a jamais été dépassé par Fincher, mais ça m'impressionne beaucoup plus, c'est Eastwood quand il bouge pas sa caméra, quoi, quand elle est clouée au sol, plutôt que la rentrer partout, quoi.
Vous parliez de Fight Club, par exemple. Vous pouvez nous dire ce qui vous a particulièrement intéressé dans le film ?
C'est quand même une des plus belles fins du cinéma américain. On parle toujours des 5 dernières minutes qui sont souvent faites par les producteurs. C'est quand même à la fin, il y a toutes les tours qui représentent les assurances. Après, c'est une parabole qui représente les bombes, les banques qui s'effondrent. Et c'est la fin quand même d'un film américain avec Brad Pitt et Ed Norton qui l'a coûté, je sais pas, dans les 60-70 millions de dollars. Le cinéma américain peut encore se permettre ces folies-là.
Une autre Amérique, l'art d'aimer le cinéma américain. Aujourd'hui, entretien avec le cinéaste Jean-François Richer.
Charlotte Garçon, Elisabeth Le Quéret, Mehdi El Hadj, Jean-Michel Bernard.
Cette émission a été diffusée sur France Culture le 16 novembre 2006.